Dans cette deuxième saison de Destin, le chanteur et slameur Grand Corps Malade nous confie son incroyable parcours de vie. De son enfance et adolescence à Saint-Denis, à sa découverte du basket, en passant par une solide bande d'amis, Fabien grandit épanoui, jusqu'à un accident dramatique qui va le rendre tétraplégique. Mais Fabien va devenir Grand Corps Malade après la découverte du slam par hasard dans un petit bar de la place de Clichy. La suite, vous la connaissez, mais pas aussi bien que vous ne le pensez.
Salut à tous, c'est Grand Corps Malade et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Fabien, on me connaît plus sous le nom de Grand Corps Malade, qui est mon nom de scène, mon nom d'artiste, que j'ai pris un soir où j'ai commencé le slam dans un petit bar. C'était un nom qui se devait de durer certainement une soirée, c'était pour déconner à la base et c'est resté. Mon métier, c'est d'être auteur. Certains disent du coup slameur, chanteur. Voilà, je suis pas un grand fan des étiquettes, donc moi, dire auteur et chanteur, ça me va très bien. Je suis né le 31 juillet 77 au Blanc-Ménil dans le 93, mais j'ai tout de suite habité à Saint-Denis, donc voilà, j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai adoré grandir à Saint-Denis. C'est une ville très multiculturelle, très très dynamique. La banlieue nord, c'est un territoire qui a beaucoup de caractère. Donc j'ai grandi là-bas, dans ce milieu-là, un milieu plutôt populaire. Et j'ai adoré ça. Je le pense vraiment, c'est une vraie richesse, une vraie chance d'avoir grandi dans ce milieu-là, puisque c'est un milieu très multiculturel où tout le monde se croise, il y a vraiment des gens de toutes les nationalités, etc. Et quand tu grandis là-dedans, que ça fait partie de ta plus petite enfance, et du coup, ça, ce mélange-là, il est complètement naturel. Ça faisait partie de ma vie et je croyais que c'était la normalité. C'est après, plus tard, que j'ai découvert que dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, ce mélange-là était des fois plus compliqué, se passait moins bien ou des fois qu'il n'y avait pas de mélange du tout. Donc voilà, c'est en ça que je dis que cette enfance-là, à cet endroit-là, pour moi, c'est une vraie chance.
Le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, à part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kaira Land.
Saint-Denis, c'est une ville très populaire et qui a des quartiers où il y a pas mal de jeunes, on va dire, dynamiques, que certains médias peuvent catégoriser de Kaira. Mais après, moi, dans ma bouche, Kaira, c'est pas du tout une insulte. Au contraire, pour moi, Kaira, c'est pas forcément des gamins qui font des bêtises graves. C'est des gamins qui peuvent faire des bêtises, mais qui sont aussi drôles, dynamiques, qu'on la vanne très facile. Et moi, quand je dis Kaira Land, après, je l'ai écrit très tôt, ce texte aujourd'hui. Le mot racaille, Kaira, du coup, il a été pas mal repris par d'autres que je trouve moins sympathique, mais à la base, pour moi, c'était très mignon, quoi. Tu vois, c'était des Kaira dont on a envie d'être les potes, quoi. Mon père, il bossait à la mairie de Saint-Denis. Il était fonctionnaire à la tête de l'administration. À l'époque, ça s'appelait secrétaire général, je crois, des services de la mairie de Saint-Denis. Donc voilà, il a toujours bossé dans ce qui s'appelle la fonction publique. Et ça, c'est pas rien hein, dans mon parcours. C'est que du coup, justement, ce sens du service public, de bosser pour l'intérêt général, pour les gens qui vivent là, ça fait partie aussi vraiment de mon truc. Et si j'ai aimé Saint-Denis, c'est aussi parce que j'étais ouvert par mon père à la vie en collectivité et à s'occuper de la vie des gens, quoi. Donc voilà, mon père faisait ça. Ma mère, elle était documentaliste dans une bibliothèque. Souvent, on me dit « Ah, mais ta mère était bibliothécaire ou documentaliste, donc c'est pour ça que tu aimes les lettres et que tu as dû beaucoup lire. » Pas tout à fait, en vrai. C'est vrai que j'ai lu normalement, on va dire, et notamment les bouquins qu'on me demandait de lire à l'école. Mais voilà, j'étais pas un fou de poésie ou de littérature, au grand désarroi de ma mère. À l'adolescence, 14-15 ans, j'écoutais beaucoup de rap français. Et du coup, je me suis mis à écrire presque pour le plaisir. Je crois que mon premier texte, ça devait être sur le Front National, qui commençait à avoir des scores un peu trop importants dans les élections locales ou nationales. Et ouais, je me rappelle que mon premier texte, ça devait être un texte énervé contre le Front National. En tout cas, voilà, j'ai écrit pas beaucoup. J'ai écrit peut-être, 3, 4, 5 textes qui ont fini leur vie dans un tiroir que personne n'a jamais lu ou entendu. Ah, puis une fois, je m'étais amusé à les enregistrer dans des conditions dramatiques. Hein. C'est-à-dire que je mettais une cassette, j'avais trouvé une instru. Et puis en parallèle, je m'enregistrais sur un autre magnéto. Donc on entendait ma voix mal sur une instru mauvaise. Voilà. Personne n'a entendu ça, Dieu merci. Mais en tout cas, j'avais déjà écrit 2-3 conneries comme ça. Et du coup, beaucoup plus tard, quand j'ai découvert le slam, je me rappelais que j'avais déjà écrit et que j'étais capable de le faire, quoi. Donc quand même, j'avais planté une petite graine. Et en vrai, je crois que je me demande si un jour, j'ai pas fait écouter honteusement cette cassette à ma sœur et à mes parents. Il y avait peut-être un titre parce que ça parlait de famille unie. Enfin, il y a peut-être un truc, mais vraiment un micro-couplet, quoi. Ça se passait très bien à la maison. C'était une famille on ne peut plus normale, une famille soudée, aimante. J'entends des fois parler de crise d'adolescence. Je crois que j'en ai jamais eu, moi. Jamais eu de soucis avec mes parents. Ça se passait très bien. Mon père bossait beaucoup. Il rentrait un peu tard. Ma mère bossait aussi pas mal. J'ai une grande sœur avec qui on s'entendait bien. Moi, quand même, très rapidement, dès que j'ai eu 12-13 ans et le droit de sortir, j'étais quand même beaucoup, beaucoup dehors. Je passais beaucoup de temps avec mes potes à me balader ou à jouer au foot. Il y avait un petit parc pas très loin de chez moi où on passait des heures et tous nos week-ends. Et puis après, très rapidement, j'ai fait du sport. 2-3 fois par semaine, j'étais à l'entraînement. Le week-end, j'étais au match. Donc voilà, j'étais pas un garçon qui restait beaucoup à la maison, quoi. Mais quand j'étais à la maison, avec la famille, ça se passait très bien. Mes parents, c'était pas des grands mélomanes, comme on dit. Enfin, quoique ma mère écoutait quand même beaucoup de musique classique. Et donc ça m'a un peu bercé, même si évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'étais pas spécialement fan. Après voilà, ils étaient pas très musique anglo-saxonne, ils m'ont pas fait découvrir du rock de telles années, mais ils étaient très chansons françaises, donc ça forcément ça a eu un impact sur moi et ça m'a nourri. Ils écoutaient Brassens, Brel, Barbara, Jean Ferrat, Aznavour, tout ça, donc voilà, forcément j'ai été élevé à cette grande chanson à texte. Et moi très rapidement j'ai écouté beaucoup de rap français.
Quelle chance d'habiter la France.
Là, on est en 90, il y a NTM qui sort ses premières mixtapes, un peu sous le manteau, c'est même pas encore leur vrai premier album, et déjà, moi, je l'ai dans mon Walkman. Ça, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, voilà quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de rap français, tous les premiers NTM, les premiers IAM, et puis ensuite Solar.
Qui sème le vent, récolte le tempo.
Même après, d'autres noms de rap un peu plus pointus que vous connaissez certainement pas, les Little MC, Lionel Deep, ça, vraiment la première école du rap français. Mes potes, ils m'appelaient le disque dur, parce que j'avais toujours beaucoup, beaucoup de textes en tête. Je connaissais beaucoup de textes par cœur, que ce soit du coup du rap ou de la chanson. Évidemment, dans la chanson, j'ai oublié de citer Renaud. Renaud avait une place très importante dans la famille. Et à chaque fois qu'on partait en vacances, il y avait des cassettes de Renaud dans la voiture. Ça, les jeunes, les cassettes, ils savent pas ce que c'est non plus. Et puis voilà, les concerts aussi. Je suis allé voir beaucoup Renaud en concert, en famille. Il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça qui réunissent toute la famille. Ben, Renaud, c'était autant mes parents que ma sœur et moi. La chanson de cette époque-là, puisqu'on parle de Renaud, c'est pas très original, mais évidemment, c'est Mistral gagnant. C'est vraiment la petite mélodie et les paroles dont on se lassera jamais, quoi. J'étais pas chiant, j'étais pas en embrouille, pas en colère. Après, j'étais dynamique, c'est-à-dire qu'à l'école, je pouvais quand même ramener des petits problèmes de discipline, mais pas grave, des petits avertissements de conduite, des conneries juste, j'étais un peu dynamique, un peu bavard, mais je connaissais mes limites. Il fallait quand même que je me force à m'arrêter, parce que je pouvais un peu me laisser aller, mais j'aimais l'école. Parce qu'en cours, j'étais pas en galère. Quand je dis ça, je parle du primaire et du collège, c'était plutôt facile, donc quand t'es en facilité, c'est pas relou d'aller à l'école. Et parce que surtout, ouais, j'aimais les potes, hein, les potes, les premières histoires de petites meufs quand t'es au collège. Donc là, le collège, c'est tout ça. Et moi, j'aimais aller au collège, quoi.
2 secondes pour shooter. Jordan,
c'est très fort.
30 points pour Michael Jordan.
Je crois qu'enfant, je voulais être basketteur. Hein, ça tournait autour du sport. J'ai fait un peu de tennis, un peu d'athlétisme, un peu de foot comme tout le monde, mais surtout du basket. À partir de 12-13 ans, c'est vraiment devenu mon sport. J'ai évolué à un bon niveau, un petit niveau national avant mon accident, quoi. Donc, ouais, moi, j'étais surtout sportif. C'était ça, la base de tout. En fait, c'est surtout en colo. Saint-Denis avait plein de colos magnifiques. J'ai été en colo toute mon enfance grâce à la ville de Saint-Denis. Et on avait une colo en Vendée à Saint-Jean-de-Mont qui était une colo spécialisée sport et notamment basket. Et c'est là-bas que pendant tout un mois de juillet, j'ai fait beaucoup de basket et que ça m'a beaucoup plu. Et du coup, en revenant, je me suis inscrit en club. C'est un sport très complet, physique, d'adresse. Et puis évidemment, l'aspect collectif, c'est qu'avant, j'avais fait du tennis, j'avais fait de l'athlétisme, qui sont des sports très individuels. Et là, le basket, bah ouais, du coup, j'ai aimé le côté... l'union fait la force. Un jour où t'es moins bien, bah, c'est tes potes qui prennent le relais. Et puis quand tu vas en match, c'est des déplacements tous ensemble, en quart. Voilà, l'ambiance de l'équipe, c'était génial. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un peu de compétition en tennis vers, je sais pas, 11 ans, 12 ans, peut-être 13. Et là, j'étais tout seul tout le temps. J'allais à mes compétitions avec ma raquette sous le bras. Je prenais le métro, le RER. J'allais à l'autre bout de la région parisienne. C'est, voilà, quand je découvre les déplacements en équipe au basket, ça change la vie. Et voilà. Donc, du coup, là, c'est devenu mon truc. J'ai jamais joué professionnel. J'ai atteint un niveau National 3 à l'âge de 19 ans, ce qui est un bon niveau. Hein. Ça commence à bien jouer au ballon en National 3. Mais c'est pas pro encore. Hein. Je suis encore à deux divisions de devenir pro. Mais en tout cas, voilà, ça joue. Et c'est, quand t'es en National 3, c'est déjà un truc que tu fais tout le temps, 3-4 fois par semaine. Et évidemment, les matchs tous les week-ends. Donc oui, c'était toute ma vie, le basket. Quand j'ai eu le bac, j'ai voulu faire du sport. Donc c'était quand même mon premier truc. Et du coup, j'ai fait les études qui s'appellent STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. C'est en gros dans les trois quarts du temps pour finir prof de sport au collège ou au lycée. Mais il y a aussi d'autres filières dans l'événementiel sportif. Donc voilà, j'ai fait ces études-là. Je savais pas trop où j'allais, mais je savais que ça pouvait être prof de sport. Parce qu'en plus, parallèlement, j'entraînais des petits au basket pendant des stages d'été, tout ça. Bon, comme beaucoup de jeunes basketteurs, voilà, des fois, tu entraînes des enfants. Du coup, voilà, je savais que j'aimais bien ce truc-là aussi de transmission. Donc, prof de sport, ouais, ça me disait bien. Et puis, s'il n'y avait pas prof de sport, là, le temps de monter dans les études, parce qu'il y a quand même 3-4 ans minimum, bon, là, je me dis, bon, j'aurai le temps de voir s'il y a autre chose qui me plaît, toujours dans le milieu sportif. J'étais en Vendée, hein, j'étais animateur d'une colo. Et heureusement, là, il n'y avait pas les enfants. Voilà, on est allé se balader. Et du coup, on s'est retrouvé chez quelqu'un dans une piscine en plein air. Et voilà, là, on a chahuté. Comme je disais, j'étais très sportif et un peu bourrin. Je faisais des grands plongeons. Et à un moment, j'ai plongé. Comme en plus, il faisait tout noir, on ne voyait pas grand-chose. Dans une des parties de la piscine où il n'y avait pas assez d'eau, où ce n'était pas assez profond. Du coup, voilà, ma tête a tapé le fond de la piscine. C'est un accident très, très bête, mais beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Moi, après, quand j'étais en rééducation, j'en ai rencontré plein qui avaient eu des accidents de plongeon. Parce que c'est un accident bête, mais quand il t'arrive, souvent, ça pardonne pas. C'est-à-dire que ta tête, elle tape le fond de la piscine, ça te fait ce qu'on appelle un peu le coup du lapin, et du coup, voilà, ta tête, elle part en arrière. Et là, cet endroit-là, c'est les cervicales qui tiennent pas, quoi. Donc, je me suis cassé une vertèbre cervicale qui, en se cassant, est allée se loger dans la moelle épinière. Et quand tu te retrouves avec la moelle épinière endommagée, c'est là où tu te retrouves paralysé.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiri, assistée de Marie Carrette. À bientôt pour un nouvel épisode.